Bonsoir. Lutte contre le sida en République démocratique du Congo. Des progrès énormes ont été enregistrés dans la lutte contre cette pandémie, notamment dans la sensibilisation, la prévention et l'accès au traitement antirétroviral. Le programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS, qui livre cette information, indique qu'à l'heure actuelle, sur 450 000 personnes éligibles aux antirétroviraux, plus de la moitié en bénéficie, mais il y a encore d'énormes efforts et plus de moyens à mobiliser pour une prise en charge médicale et psychologique des personnes vivant avec le VIH. Quels sont les défis à relever dans la lutte contre le sida en RDC? C'est notre débat de ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Léon Moubikaï, médecin spécialiste en santé publique et en gynécologie, député national et président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Léon Moubikaï, bonsoir. Il devrait nous rejoindre dans peu de temps, mais aussi Nikèze Maté. Nikèze Maté, bonsoir. Vous êtes médecin également, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, PNLS, à Benia Lubero, accompagne également les associations de lutte contre le sida et les associations des personnes vivant avec le VIH dans 17 zones de santé au Nord Kivu. Et enfin, Jean Loukela, coordonateur national du RENOAC, Réseau national des organisations assises communautaires des personnes vivant avec le VIH. Jean Loukela, bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
450 000, c'est le nombre de personnes infectées par le VIH en République démocratique du Congo à ce jour. Et même si le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle, parle de la moitié qui a accès aux médicaments, des défis subsistent, notamment la prise en charge médicale et psychologique des personnes atteintes, tout comme une implication supplémentaire des communautés. C'est d'ailleurs ce que réclame le chef de section coopération et partenaire du PNMLS de la RDC. On écoute ici Feli Lunzolo.
Au niveau national comme international, nous avions voulu faire voir l'importance et l'apport dans la communauté sur la lutte contre le VIH et SIDA à travers le monde et en particulier en RDC. Et que ces acteurs communautaires doivent encore doubler d'efforts davantage pour que nous puissions mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici 2030. Le pays a contractualisé sur les objectifs 90-90 d'ici 2020. Et le premier 90 voudra que toute personne qui vive avec le VIH doit connaître son statut sérologique, c'est-à-dire doit se faire de pister. La prévention de prévention, c'est le dépistage, connaître son statut sérologique. Au terme de cette journée, nous pouvons lancer aux personnes et à toute la communauté congolaise à se faire dépister et à observer le mesure de prévention du VIH.
Alors, Nikèze Maté, vous nous confirmez que vous êtes bien du PNLS? Vous êtes du PNLS ou du PNMLS? Parce que cette précision est détail. Allô, Nikèze Maté? On aura visiblement beaucoup de difficultés à faire cette émission avec les principales structures de lutte contre le VIH en République démocratique du Congo. Il était prévu des responsables adaptés du PNMLS pour pouvoir aborder avec nous les questions. Qu'à cela ne tienne, nous avons dans le casting Léon Moubikaï, qui est médecin spécialiste en santé publique et en gynécologie. Il est député national et président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Léon Moubikaï, vous n'êtes pas du PNMLS, ni du gouvernement d'ailleurs, mais vous êtes un élu de la population. Certaines questions auraient dû être adressées directement aux structures concernées ou aux services de l'État public sur cette question. Mais étant donné que vous êtes quand même un élu du peuple, vous allez essayer de nous renseigner sur ces questions. Dans le son que nous venons d'écouter à l'instant, le PNMLS semble se féliciter de la gestion du sida RDC, mais en même temps, le même PNMLS reconnaît qu'il y a quand même jusqu'à 450 000 personnes vivant avec le VIH en RDC. C'est plutôt un drame, non? Ou selon vous, il y a à se féliciter?
En fait, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez et que vous m'associez aussi à l'émission. Je salue les différents auditeurs. En fait, nous venons de loin avec PNMLS. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Il y a des choses qui commencent à se régler maintenant. Il y a eu des moments où ils ont dilapidé l'argent avec certains musiciens qui se sont enrichis gratuitement comme ça. Mais je pense que maintenant, il y a des choses qui sont en train de s'arranger et nous pouvons les féliciter. Pour le moment, nous pouvons les féliciter. En fait, le grand problème, c'est que nous devons faire plus d'efforts au niveau, en tant que pays, pour que nous puissions aider nos compatriotes qui sont malades. Parce on ne doit pas avoir toujours la main tendue. Et c'est ce que nous avons fait tout ce temps ici. Quand on va vous demander, même quand ils se félicitent pour le nombre de malades pris en charge, mais quand vous regardez quelle est la participation réelle de l'État, c'est seulement une petite portion. La grande partie, c'est le Fonds mondial qui est en train de prendre ces gens-là en charge. Et je pense que c'est une honte pour nous. Nous devons faire un effort avec la nouvelle administration qui est en place. Nous pensons qu'on peut faire un effort pour que nous puissions prendre en charge nos malades. Ce sont nos malades, ce sont nos compatriotes.
Alors, Léon Moubikaï, les objectifs qui devaient être en principe atteints en matière de sida au plus tard en 2020 précisent qu'il était question que 98% des personnes infectées puissent être dépistées. 90% devraient, parmi les personnes dépistées, donc portant de la maladie, devaient avoir accès aux médicaments et 90% devaient être en mesure de ne plus contaminer d'autres personnes. Cet objectif, selon vous, vous l'estimez, on est à quelques jours de 2020, vous l'estimez déjà atteint, en voie d'être atteint en 2020 ou inatteignable en 2020?
Inatteignable pratiquement si nous continuons avec la politique actuelle où nous-mêmes nous nous investissons pas, nous comptons seulement sur les partenaires. En fait, pour ne pas contaminer les autres, il faut que les taux, la charge virémique doit descendre plus bas que possible. Alors, en voyant ce qui se passe, des malades qui ne sont pas sous traitement, ils seront toujours en train de contaminer les autres. Donc, je crois que le plus grand effort, c'est disponibiliser les médicaments pour tout le monde. C'est ça qui doit se faire. Mais si on n'a pas ce niveau, si on n'atteint pas ce niveau-là, je crois que c'est une perte de temps, c'est un objectif qui sera irréalisable pour la République démocratique du Congo.
Alors, vous nous dites déjà que cet objectif sera irréalisable, mais voilà qu'un autre objectif semble pointer à l'horizon. Le thème de cette année met l'accent sur le rôle de la communauté. Pouvez-vous nous expliquer un peu lorsque, de manière publique, le pays ou même les pays mettent l'accent sur les communautés et leur action qui doit être augmentée. Pourquoi c'est la communauté qui passe maintenant en premier au lieu plutôt de ce que vous venez de dire et qui reste un des objectifs majeurs, c'est-à-dire une plus grande implication de l'État et un accès aussi important aux soins?
Non, il faut séparer les deux éléments. Il y a deux éléments très importants. Dans les piliers de la lutte contre le VIH-SIDA, il y a deux éléments plus importants à ce niveau-là, vous êtes en train d'évoquer. Il doit y avoir deux éléments plus importants. Le premier élément, c'est la prévention. La prévention doit être primordiale. Le deuxième élément, c'est ce que nous venons de Donc, ce sont les deux éléments très différents. Ils sont en vue de déjà atteints. Ils doivent avoir les traitements pour diminuer la chaîne de transmission. Mais la prévention est primordiale. C'est plus que attendre que les gens puissent traiter. Donc, ça veut dire que la communauté doit s'impliquer à tous les niveaux. La communauté doit s'impliquer non seulement dans la lutte, dans la prévention, mais aussi pour diminuer aussi cette forme d'indexation qu'on a avec les malades. Dans la communauté, ils ne sont pas considérés. Il suffit qu'on sache que vous êtes séropositif, ça devient un problème particulier. Donc, mais le premier élément, comme je le disais, c'est la prévention. Et la communauté joue un grand rôle dans la prévention. Donc, c'est sur ce plan-là, il faut aussi agir pour diminuer la chaîne de transmission.
Léon Moubikaï, mais alors dans ce cas, ce n'est pas vraiment nouveau. Cette thématique de l'implication de la communauté ne devrait pas être mise en avant aujourd'hui, 40 ans après que le sida ait été connu publiquement. Pourquoi revenir sur le thème de la communauté qui est, en principe, hein, comme vous venez de l'expliquer, une approche incontournable de la lutte de cette maladie et revient en surface 40 ans après?
En fait, pour utiliser le terme le plus simple, tout ce temps, on a parlé de la communauté plus en insistant sur la prévention. Donc, les relais communautaires devaient expliquer comment on transmet les sida et tout ça, comment les gens doivent s'abstenir, comment les gens doivent être fidèles. Mais je crois qu'on part au-delà de ça. Quand les gens sont déjà, quand il y a déjà des malades qui sont atteints dans la communauté, ces malades, malheureusement, ne sont pas tellement considérés par cette communauté qui les met à l'écart. Dès qu'on sait que vous avez le VIH-SIDA, ça devient un problème particulier, alors que même nous, médecins par exemple, on peut l'attraper avec ce que nous sommes en train de faire comme travail. Alors pour éviter cela, on fait un effort pour que la communauté s'implique aussi. Quand la communauté va s'impliquer, les malades vont aller à l'hôpital facilement en reconnaissant. Ils vont d'abord aller se faire dépister, ce qui est un élément très important. Parce que les gens ont peur même de se dépister parce qu'ils se disent « qu'est-ce que la communauté dira de moi ?»« Qu'est-ce que la communauté dira de moi ?»
Merci Léon Moubikaï, nous revenons à vous tout à l'heure. Nikèze Maté, vous êtes avec nous ?
Oui, oui, je suis avec vous.
Alors, je vous pose un peu les mêmes questions que Léon Moubikaï tout à l'heure, pour un meilleur éclairage. Étant du PNMLS, comment justifiez-vous un peu cette communication qui semble se féliciter de la gestion actuelle du sida en RDC, alors qu'il y a quand même 450 000 personnes infectées à l'heure où nous parlons, non? Nikèze Maté? Alors, Nikèze, si vous m'avez entendu, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour répondre, s'il vous plaît?
Oui, oui. Je voudrais dire ceci. Ce que nous avons constaté jusque-là, c'est qu'il y a eu des efforts qui étaient faits par les gouvernements pour apporter le soutien aux malades, pour apporter les moyens de dépistage et les médicaments. Mais les défis qui restent à faire pour le moment, c'est les défis de la stigmatisation et de la discrimination. C'est-à-dire, au niveau communautaire, nous ne pouvons pas réussir s'il y a toujours la discrimination, il y a toujours la stigmatisation. La plupart des fois, selon les témoignages des associations féminines et des personnes qui ont vécu la situation, il y a des veuves du VIH et des orphelins du VIH qui sont pour la plupart encore marginalisées. Il y a également les défis de l'appui psychosocial. Jusque-là, nous avons fait des efforts et l'espoir que nous avions par rapport à nos partenaires ou à ceux-là qui sont venus nous appuyer, c'était d'obtenir des interventions dans les cadres des vivres, des non-vivres, des activités génératrices pour permettre à cette catégorie de nos concitoyens de se réintégrer. Mais jusque-là, ces efforts n'ont pas pu donner les meilleurs résultats. C'est pour cela, moi, je me dis que aujourd'hui, c'est une bonne chose que nous puissions penser à rendre les communautés compétentes. Parce que si une fois une communauté est compétente, elle est capable de donner une réponse satisfaisante par rapport aux défis du VIH.
Alors, Nikèze
Maté, c'est que nous pensons que
Nikèze Maté,
oui, à l'écoute.
Nikèze Maté, on se rend compte que en termes de statistiques, l'Afrique aujourd'hui encore continue de recueillir plus de deux tiers hein, des chiffres des personnes contaminées dans le monde. C'est beaucoup, mais on sait que d'autres parties du monde ne sont concernées par le tiers terres restants. Apparemment, ces pays ont une approche plus efficace que par exemple les pays africains, y compris la RDC. Avez-vous l'impression que les pays qui, eux, réussissent à contenir le sida utilisent les mêmes approches que vous? Sinon, pourquoi ne les imitez-vous pas?
Les pays qui ont les approches dont vous parlez là, ils ont souvent des budgets de santé ou des budgets dans les mutuelles de santé qui sont souvent énormes, des vraiment masses d'argent qui permettent aux structures et même aux associations d'intervenir efficacement dans la lutte. Mais chez nous, les budgets qui sont destinés à la santé et aux interventions de santé sont souvent maigres. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à répondre efficacement à la hauteur des besoins ou à la hauteur des questions qui nous sont posées dans le cadre de la santé. Et puis, notre co-débatteur a également précisé que nous avons une forte dépendance extérieure par rapport aux interventions financières. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas, même si nous connaissons les besoins, même si nous pouvons étudier ou analyser ou les définir, mais nous n'avons pas toujours la possibilité d'intervenir. Nous sommes encore obligés de recourir à une intervention extérieure pour pouvoir donner cette réponse-là financière.
Alors nous avons entendu avec votre collègue député qui a parlé avant vous que les objectifs 90-90-90 en 2020 comme attendu ne seront pas atteints, mais au même moment on voit qu'il y a l'approche par exemple cette année qui est mise sur la participation supplémentaire des communautés selon l'approche que vous venez d'expliquer. En même temps vous dites que les autres c'est plutôt les moyens qui les aident à vaincre le sida. Alors dans ce cas, l'approche ne va-t-elle pas être une meilleure mobilisation des fonds pendant qu'au même moment on est en train d'interpeller les communautés?
Bon, effectivement, donc il faut que les communautés puissent avoir la possibilité de répondre aux défis. C'est-à-dire, même si on peut mobiliser les fonds, ceux qui vont utiliser les fonds, c'est certainement la communauté. Mais aussi, nous avons des cas dans la communauté qui ne peuvent pas être atteints seulement parce qu'il y a des fonds. Il faut que la communauté elle-même, c'est-à-dire les voisins, les gens qui vivent au jour le jour, ceux qui ont déjà traversé, ceux qui ont déjà été, qui ont dépassé, si je peux dire, qui ont déjà été malades et qui ont obtenu les soins, c'est eux qui peuvent faire de bons témoignages. Vous savez que si aujourd'hui nous déplorons les cas de déperdition des malades par les tradis praticiens ou les déperditions des malades dans les églises des réveils, c'est justement la communauté qui est à l'écoute de ces malades-là, qui les ramasse là où ils sont cachés et qui les conduit ou qui les oriente, si je peux dire, qui les désoriente, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'il est important que maintenant, qu'on puisse penser à organiser la communauté, qu'elle soit bien informée sur l'importance d'une prise en charge telle que ça s'est fait, et sur les possibilités qui sont offertes. Alors, aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que dans notre sous-coordination, nous avons à peu près 17 hôpitaux généraux qui offrent les soins. Nous avons une centaine de centres de santé qui offrent les soins. Mais il y a très peu de personnes qui sont informées que ces structures existent et que ces soins existent bel et bien. C'est ce qui fait qu'il faut rendre cette communauté compétente pour qu'elle puisse arriver à se prendre en charge. Les moyens qui doivent être mobilisés doivent être orientés vers les structures communautaires qui permettent effectivement de rencontrer là où il y a des problèmes, bien évidemment sous l'encadrement de l'État.
Merci Nikèze Maté. Jean Loukéla, coordonnateur national de RENOAC, Réseau National des Organisations à Assises Communautaires des Personnes Vivant avec le VIH. À votre avis, le problème se situe beaucoup plus, un peu comme l'a souligné tout à l'heure Nikèze Maté, à une situation de faible financement pour pouvoir vraiment efficacement vaincre, sinon baisser la prévalence du sida en Afrique et en République démocratique du Congo, ou est-ce un problème d'organisation comme et peut-être même de la dilapidation des peu de moyens qu'on a, comme semblait l'indiquer dans une de ses déclarations Léon Moubikaï?
Bon, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Et pour moi, tout d'abord, je félicite l'élu, le député qui venait de parler. Vraiment, il a bien parlé. Parce que nos problèmes, c'est quoi? Il y a même le directeur exécutif de l'Olicida d'antan, M. Sidibé, quand il est passé ici, il a même rencontré nos autorités pour leur dire qu'il ne faut pas prendre plaisir à dormir sur le lit du voisin. Et tout le temps, quand son fils reviendra, il va vous dire dehors. Et c'est ce problème que nous connaissons ici dans le cadre du VSIDA. Parce que pour ceux-là qui sont le malade, qui ont dit 50%, qui sont pris en charge, mais pris en charge avec l'argent de qui? Avec l'argent de l'extérieur. Et surtout, il y a peut-être les fonds mondiaux qui donnent de l'argent. Et l'argent des contribuables américains et l'argent des contribuables et européens. Et c'est ça qui fait fonctionner même le programme lui-même. Hein, même le programme, enfin, le PNLS, non mais le PNLS par exemple, hein, il reçoit des financements de l'extérieur pour fonctionner. Et c'est dangereux. Le jour où ces gens diront, bon, c'est fini, nous sommes partis, il y aura des morts en cascade. Et puis, comment vous pouvez vous féliciter de... Hein, de quelque chose qui vous ne contribuez pas.
Alors, Jean Louleka, vous gardez la parole, mais puisque vous êtes dans la partie qui concerne le contact avec les personnes vivant avec les VIH, c'est un peu votre travail de tous les jours. Alors, les chiffres officiels indiquent que sur les personnes atteintes du VIH-SIDA en République démocratique du Congo, 50% d'entre elles recevraient déjà les traitements. Selon votre observation, votre monitoring, vous appuyez cela ou vous avez un avis différent?
Non, je n'ai pas un avis différent. Certainement, ça peut être 50%, voire même plus de 50% des personnes qui sont traitées ou qui sont prises en charge. Mais notre grand défi, nous voulons que le gouvernement, en élaborant le budget, qu'on puisse mettre une ligne là, qu'on dit bon, ça c'est pour le traitement du VIH-SIDA. Et puis, autre chose aussi, prenons même le 5% de l'argent qu'on doit rétrocéder pour le VIH-SIDA. La contrepartie, mais c'est tout un problème pour que le gouvernement puisse payer. Vous devez faire de quoi? Quelquefois, nous avons fait des sittings pour qu'on puisse faire ça. Et puis, pour le même si cet argent-là peut être inscrit au budget, mais pour le DTC, je vous assure, c'est pas possible. Et nous, comme vous dites, nous sommes communautaires, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le dépôt, quand parce qu'ils cherchent l'apport de la communauté. Nous, en tant que communautaires, nous gérons ce que nous appelons le PODIS, donc le poste de distribution des ARV aux patients stables.
Alors,
les patients sont devenus stables, au lieu d'aller tout le temps à l'hôpital, mais ils reçoivent leurs médicaments dans la communauté.
Jean Louleka, le PNMLS indique que avec une grosse participation, une plus grande participation des communautés, notamment dans la limitation de la stigmatisation, on pourrait avancer beaucoup dans la progression des bons résultats. Avez-vous l'impression que cette approche pourra être atteinte bientôt ou, comme vous venez de le dire, vous pensez qu'il faut absolument une enveloppe supplémentaire de la part du gouvernement combinée éventuellement à cette approche? C'est cela qui pourra apporter les bons résultats.
Ce n'est pas une enveloppe complémentaire, mais ce doit être une enveloppe substantielle. Une enveloppe qui doit être là où on sait que ça, par exemple, mais tout le temps même quand il y a des financements, mais ce sont toujours ces ONG-là, hein, qui traitent avec les programmes et les autres, tout ça, ainsi de suite, qui s'accaparent de ces financements. Et il y a des miettes qui arrivent dans la communauté. Et on va, par exemple, on va donner des millions à tel pour qu'ils puissent le redistribuer dans la communauté, mais ça arrive certainement, mais pas comme nous l'avons souhaité, nous, communautaires, comme nous l'avons souhaité. Nous avons tout le temps, quand vous allez, on vous dit, bon, offre, appel à projet. Vous travaillez, vous mettez là-bas, on vous dit, bon, il faut avoir un véhicule. Quel est ce type obligé qui peut avoir des communautés, qui peut avoir 5 véhicules, qui peut avoir telle expérience, des maisons, tout ça, ainsi de suite. Donc, nous avons des difficultés. Et pour les plus grands défis, c'est que l'État intervient, pas intervient, mais il se met là-dedans pour donner un budget conséquent au programme VIH-SIDA, et puis, sinon, pour atteindre ces objectifs que nous sommes en train de faire que nous puissions les atteindre, ce sera très difficile.
Merci, Jean Loukela, Léon Moubikaï. Pour vous, nous allons écouter cette réaction qui nous vient de la Tchopo, Ougen Mungwajoué.
C'est Ougam Mungwaju et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. Peu importe ces avancées enregistrées par cette organisation, il faut avouer que les défis à relever dans la lutte contre les SIDA sont encore énormes et demandent toujours l'implication du gouvernement. Je pense, à mon avis, les SIDA s'est toujours répandu en République démocratique du Congo pour plusieurs facteurs. Primo, la pauvreté qui se trouve à la fois comme cause et conséquence du sida. Secondo, l'instabilité politique et les groupes armés, car les guerres occasionnent des actes de barbarie comme les viols. Au-delà de ces facteurs ci-cités qui demandent l'implication du gouvernement, je trouve aussi nécessaire que l'organisation pense à une nécessité de redoubler l'attention sur la prévention de cette maladie, tout en mettant la dynamique de l'extension dans l'accès des traitements, car les taux de mortalité des SIDA se manifestent plus aux pays pauvres.
Léon Moubikaï, vous constatez comme moi que les analyses sont nombreuses pour décrocher, relever la bonne approche qui pourrait amener la RDC à vaincre le SIDA, voire à le faire reculer suffisamment. Est-ce que de manière mieux structurée, vous pouvez, après avoir écouté les uns et les autres, et nous dire plus ou moins, selon vous, quelle pourrait être l'approche la plus adaptée pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants? Est-ce beaucoup un peu plus d'argent? Est-ce une meilleure structuration de la stratégie à mettre en place? Peut-être un peu plus de communication? Avec quoi doit-on commencer et avec quoi on peut finir?
Merci beaucoup, Guimaté. Au fait, je suis très content de la question de notre compatriote. Et ce qu'il a dit est exact. Et aussi, je félicite aussi les co-débatteurs. Je me suis rendu compte que finalement, on a parlé le même langage, même si le premier avait un peu peur de parler politique alors qu'il sait qu'on a besoin d'argent. Et j'étais très content du deuxième qui est parti tout droit au but. En fait, notre compatriote a pleinement raison. Le sida, c'est une maladie multifactorielle. Mais moi, j'insiste sur le fait que l'État congolais... Est-ce que vous savez que PNMLS, dont on devait parler aujourd'hui, dépend directement du chef de l'État? Il ne dépend pas de l'administration, directement du chef de l'État. Donc, devant l'ampleur de l'endémie, les PNMLS dans les différents pays ont été placés sous la gestion du chef de l'État. Ça veut dire que c'est un grand défi. Le chef de l'État doit comprendre que ceux qui souffrent, ce sont nos compatriotes qui sont malades. Et ce n'est pas nécessairement... Et puis ça, c'est un grand problème. Même le premier, celui qui a parlé juste après moi, mon confrère là, il a dit quelque chose de plus important.
Jean Louquet là.
Stigmatisation. Moi, je ne voulais pas parler de la stigmatisation. Je voulais que la population comprenne quand j'ai dit que les gens ne sont pas acceptés dans la communauté. C'est ce que je voulais dire pour que la population comprenne là où elle doit intervenir. Au fait, dans ces pays, dans la plupart des coins, on lie les sida au sexe. Et en liant les sida au sexe, on considère que ceux qui ont le sida se sont prostitués pour avoir le sida. Mais ça, c'est très grave. Nombreux des pays africains ont déjà compris que c'est une maladie comme toute autre maladie et on doit assister nos frères. Et en assistant nos compatriotes qui sont malades, on diminue la chaîne de contamination. La paix, c'est un élément important. Notre compatriote, il vient de parler, il a parlé d'un élément très important. C'est pour cela que j'insiste pour dire que c'est multifactoriel. Là où il n'y a pas la paix, là où il y a la pauvreté, le sida va continuer. Et je suis convaincu qu'avec le programme du chef de l'État sur la lutte contre la pauvreté, on va diminuer aussi la chaîne de contamination.
Merci.
Mais acceptons nos compatriotes qui sont malades. Comme ça, ils vont se sentir à l'aise. Même les autres vont se sentir à l'aise pour aller se faire dépister. Et avec ça, on peut avoir des bons résultats et diminuer la chaîne de contamination.
Merci Léon Moubikaï. Nikèze Maté, pour vous, cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Bien que les défis soient énormes à relever dans la lutte contre le VIH-Sida en RDC, j'ai comme l'impression qu'on n'en parle plus. Comment vaincre cette pandémie du moment où la sensibilisation est quasi inexistante? Dans les écoles, universités et des panneaux publicitaires, on n'en parle plus comme c'était auparavant. Je crois que le PNML fait un boulot remarquable, mais ce programme doit changer ou soit multiplier des stratégies pour atteindre plusieurs personnes contaminées qui se cachent ou qui ne savent pas où s'en procurer des antirétroviraux. Ou encore, elles ont honte de se manifester, de peur à faire l'objet de stigmatisation dans la société.
Nikèze Maté, que pensez-vous de ce commentaire?
Oui, bon, ce commentaire est positif. Parce qu'en fait, il relève la réalité que nous sommes en train de vivre. Ce que je voudrais signaler, Guy Maté, c'est que les années passées, les organisations locales ou les ONG locales avaient suffisamment de moyens pour faire la sensibilisation. Et on a constaté que depuis un certain temps, ceux qui appuyaient ces organisations ont un peu relâché. C'est ainsi que ces organisations n'arrivaient plus à faire la sensibilisation comme ils le faisaient. Et nous pensons que si nous pouvons revenir à cette communication un peu agressive, excusez-moi l'expression, un peu forte là, il est possible que nous puissions stabiliser et donner des garanties sur la réduction de la propagation. Et le collègue a également parlé des situations de guerre, des situations de déplacement, des situations de pauvreté. Effectivement, ce n'est pas la sensibilisation qui va finir ça. Il est évidemment important que ceux qui ont des responsabilités les prennent pour que nous puissions finir avec la situation de guerre et la situation de pauvreté.
Nikèze Maté,
oui, à l'écoute.
Avez-vous l'impression que dans les statistiques de cette année ou de ces deux ou trois dernières années, la présence d'Ebola a pu jouer sur quelque chose, peut-être le nombre de décès ou même l'aggravation de cette épidémie?
Oui, effectivement. Nous avons vécu une situation d'Ebola depuis maintenant 2 ans au niveau de Beni. Et dans ces 2 années-là, nous avons perdu à peu près 18 PVV qui étaient PVV connus et qui ont attrapé l'Ebola. Comment est-ce qu'ils ont attrapé l'Ebola? La plupart recevaient les habits de leurs proches morts d'Ebola parce que sur le plan africain, on distribue parfois les habits de celui qui est décédé et malheureusement, il y avait de ceux-là qui avaient attrapé des habits qui contenaient des virus Ebola et ça a compliqué leur vie. Il y a aussi des PVV que nous avons vus qui se rendaient sur les lieux de deuil et qui pouvaient manger à l'africaine aussi et qui ont attrapé. Donc, je peux dire que dans le contexte des pauvretés, oui, c'est vrai. Malgré que nous avons fait les efforts pour faire la sensibilisation tout au début là, nous avons demandé à nos amis des associations de multiplier des efforts pour que les PVV puissent se tenir un peu loin par rapport à Ebola, mais nous n'avons pas obtenu vraiment le maximum de ce côté-là. C'est ainsi que je peux dire que la sensibilisation, d'accord, les conditions pour faire en sorte que la pauvreté cesse, ça aussi c'est bien, mais aussi il faut qu'il y ait des moyens conséquents puissent être donnés, parce que les associations qui se donnent, nous avons des associations de PVV qui sont d'accord, qui nous aident, qui avec lesquelles nous travaillons. Et ces associations souvent sont à court de moyens. Comment est-ce qu'ils vont se rendre d'un point à un autre pour faire la sensibilisation, donner des témoignages, inciter les autres à l'adhérence au traitement? Comment est-ce que les associations des jeunes vont se rendre dans les groupes des jeunes, les universités? Alors moi je pense bien qu'il faut qu'il y ait un plaidoyer fort pour permettre à ce que beaucoup de moyens puissent être donnés au niveau des communautés, au niveau des associations qui luttent déjà, au niveau des bureaux provinciaux, au niveau du programme, pour permettre à ce que la lutte sur tout cet aspect-là puisse prendre forme.
Alors, Nikez Maté, donnez-vous quand même des garanties, vous, le PNLS, tout comme le PNMLS, que si jamais il y a une enveloppe conséquente, il n'y aura pas de dépenses un peu déviées, comme on a pu le relever ça et là dans le passé.
Je crois que je vous donne des garanties. C'est le programme, c'est un programme, c'est une réponse vraiment par rapport au défi. Ce programme a fait le chemin. Nous sommes parmi les programmes qui ont commencé depuis les années 80. Ce programme a fait le chemin. Il a démontré de quoi il est capable. Aujourd'hui, je crois que donc le programme ne peut pas se contredire là-dessus. S'il y a des moyens conséquents, partout où le programme fonctionne, il est capable de gérer correctement, il est capable de faire arriver les moyens qu'il y aura aux bénéficiaires.
Merci.
C'est ça qui est important parce que...
Merci, oui. Merci Nikez Maté. Jean Loukela, pour vous, ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud Kivu. Je pense que les efforts fournis par le PNMLS dans la lutte contre le sida en RDC sont à saluer. Il serait cependant mieux que ce programme continue plus sur cette lancée pour que tout le monde malade du sida ait accès facile au traitement antirétroviral dans ce pays. Y parvenir, et c'est d'ailleurs le grand défi à relever, c'est de faire voir à tous, malades ou non du sida, que le VIH-sida est une réalité pathologique vivante en RDC et que pour ce faire, il faudrait nécessairement se faire dépister pour ne pas contaminer les autres afin d'atteindre le niveau zéro du nombre de malades de sida dans ce pays. C'est possible.
Jean Loukela, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. Ce qu'il a dit, c'est vrai, mais est-il que le problème est que le PNLS doit faire un effort, l'effort sur lequel il y a aussi un autre défi. On donne que les ARV, mais les traitements des IO, donc les maladies opportunistes, personne n'y pense. À peine c'est MSF Belgique avec le quoi, le Kabila, qui peut donner le quoi, qui soigne les IO, mais les autres non. Alors, mais c'est difficile parce que souvent, les personnes vivant avec les VIH sont dans une situation précaire. Après avoir lapidé peut-être tout ce qu'il avait pour soigner, pour se faire soigner, alors maintenant il est malade. Il arrive, vous lui donnez les ARV, il a des myomes, il a tout ça. Bon. Vous commencez à vous bourrer les ARV, avec quel résultat? Avec un résultat qui sera toujours mitigé. Et c'est pour cela que nous demandons, même si les autres de l'extérieur nous donnent l'argent, mais quand même, il faut que l'État puisse aussi prendre une part. Ils vont payer donc les ARV, nous allons prendre la part de soigner les maladies opportunistes qui arrivent souvent chez le de la tuberculose. Ça va, les comprimés sont, disons qu'ils sont gratuits. Mais le quoi, il y a certains examens qu'il faut payer. La radio, ceci, cela, tout ça. Il y a quelques fois, ceux qui rentrent chez moi, écoutez, je ne paie pas, comme ça je vais abandonner parce que je préfère mourir parce que je n'ai pas l'argent pour la radio.
Alors, Jean-Loukela, cette émission est à sa fin. Alors, en attendant, j'imagine que les autorités ont bien écouté cette émission, mais en attendant qu'une réponse soit déjà sur le terrain, vous qui êtes en contact avec les personnes désireuses ou dans la situation d'attendre de l'aide, Quel message pouvez-vous dire à toutes les personnes qui sont soit infectées ou non encore connues, qui ne connaissent pas encore leur sérologie, que pouvez-vous dire à toute cette catégorie de personnes à cet instant?
Donc pour ceux qui connaissent déjà leur sérologie, qui prennent déjà les médicaments, nous leur demandons l'adhérence. Donc c'est prendre les médicaments à l'heure qu'il faut, avec toujours l'ordre de médecin qui dit que bon, il faut prendre les médicaments à 19h. Tout le temps, il faut le prendre à 19h. Même si tu es très malade, même si tu n'as pas mangé, mais tu dois avaler ton comprimé. C'est très important parce que ces comprimés-là des ARV, il faut que la charge virale de la personne puisse diminuer sensiblement et que cette personne, si la charge virale est diminuée sensiblement, et n'est pas capable de transmettre.
Merci ouais. Jean Loukela. Nikèze Maté, un peu en guise de conclusion, quel est le message que vous pouvez dire aux gens, notamment ceux qui sont dans le Nord Kivu, où il y a encore cette présence d'Ebola, combinée peut-être au sida, comment ils peuvent se comporter?
Oui, nous devons, nous apprécions vraiment à sa juste valeur les efforts qui sont fournis. Vous savez que le programme ne dort pas. Vous savez qu'au niveau de la hiérarchie du pays, les gens ne dorment pas à cause du VIH. Nous demandons surtout à la population de Beni, de Butembo, de Lubero, toute cette population d'être à l'écoute des conseils que nous allons donner ou que nous continuons à donner à travers les organisations de la société civile, à travers les zones de santé, les
prestataires. Merci de votre participation à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle au programme de Radio Capital.